Bonjour tout le monde. Ça va bien? Tantôt, on a omis une chose. J'ai omis une chose. On a notre frère ici qui est avec nous ce matin, François Biron. Qui est en train de se relever d'une opération, une grosse opération. On lui a enlevé 60% de son foie à cause des. Il y avait des tumeurs. Puis, ça fait. On lui a pas enlevé 60% de sa foi, non. Je pense que le 60%, ça l'a augmenté encore plus, je pense, hein, François? Ça se régénère, hein? On est content que tu sois là, François, avec nous, puis on tenait à le souligner. Encore là, le Seigneur a répondu aux prières, hein? Encore là, une autre preuve que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est bon, puis qu'il prend soin. Puis on est content que tu sois là avec nous ce matin, François. J'aimerais qu'on commence en tournant dans Cantique des Cantiques ce matin. Cantique des Degrés. Je me suis. Psaume 133. J'ai lu trop vite. Psaume 133, Cantique des Degrés de David. Psaume 133. Cantique des Montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'il est bon pour des frères d'habiter unis ensemble, pour des frères de demeurer ensemble aussi, dans d'autres versions qui est dit. Mes frères et sœurs, ce matin, on est bénis d'être unis ici ce matin, ensemble. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable ce matin, vous trouvez, d'être accompagné de vos frères, vos sœurs? Savez-vous que c'est un don de Dieu si on peut se réunir ici ensemble chaque dimanche? C'est un privilège qu'il nous donne. Vraiment. Dans les Écritures, on voit clairement comment la présence d'un autre croyant, d'un frère, d'une sœur, est une source de joie puis une source d'encouragement incroyable. À plusieurs reprises, quand Paul écrit les lettres aux églises, il communique. Saluez un tel, n'oubliez pas un autre. Il dit aussi, dans 2 Timothée 1:4, me rappelant tes larmes, il parle à Timothée, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Encore une autre fois, dans 1 Thessaloniciens 3:10, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de se rencontrer entre frères et sœurs. Nous, on se rencontre à chaque dimanche, on se rencontre aussi en semaine, on se côtoie. C'est pas inhabituel pour nous de vivre ça. On est vraiment bénis. Pour plusieurs croyants dans le monde encore aujourd'hui, le simple fait de croiser un frère, une sœur, c'est l'événement d'une vie. Ils sont confinés à vivre leur foi, vivre leur vie chrétienne tout seuls, parce que s'ils en parlent à leurs voisins d'en face, ils peuvent perdre la vie. Puis pourtant, dans ces pays-là, l'Évangile continue de se répandre, puis l'Église de Christ continue de grandir. Quand ces personnes-là voient un frère, une sœur, pour eux autres, ils se sentent comme étant au ciel. Parce que pour eux, leur espérance, c'est quoi? C'est un jour où on va être tous réunis, comme un seul, devant notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. C'est leur espérance. Chaque fois qu'ils vont croiser un croyant dans leur vie, un frère, une sœur, ils vont se dire, waouh, c'est Christ qui est venu me visiter. C'est une source de joie, de réconfort, d'encouragement, incroyable. Vous savez, Jésus est venu sur la terre dans un corps. il a été fait homme. Il a grandi dans un corps. Et puis, quand on donne notre vie au Seigneur, on reçoit Christ, on reçoit son esprit en nous, dans nos corps. Donc, quand on rencontre un frère, en fait, c'est qui qu'on rencontre? Jésus. Il y a un lien qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est Christ. Christ habite en chacun d'entre nous, ceux qui ont donné sa vie, qui l'ont fait Seigneur, Sauveur de leur vie. Christ est en nous. Quand on se rencontre, c'est un privilège que Dieu nous fait. Et puis, c'est qui qu'on rencontre? C'est Jésus. Ça fait réfléchir. Quand le Seigneur nous demande de s'accueillir, de se recevoir, chaleureusement, avec amour. Vous savez, quiconque reçoit ses enfants, le reçoit. Pourquoi? Il y a des liens à faire. On est ses enfants. Christ habite en nous. Et puis, c'est souvent un privilège qu'on prend pour acquis, puisqu'on le vit au quotidien. Mais ce privilège-là peut nous être enlevé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut perdre cette communauté-là qu'on a, cette communion qu'on a quotidiennement avec nos frères, nos sœurs. Et puis, c'est vraiment un privilège. Puis, il y a vraiment de quoi s'arrêter, puis à réfléchir, puis dire merci au Seigneur pour le fait qu'on puisse se rassembler ensemble, pour le fait qu'il nous a unis. C'est lui qui nous unit. C'est à travers Christ qu'on a cette relation-là. C'est à travers Christ qu'on peut s'appeler frère et sœur. C'est quelque chose de spécial. Avant de continuer, on va aller en prière ce matin. On va se tourner vers notre Sauveur. Seigneur Dieu, on veut te remercier, te louer, Père, pour ce privilège que tu nous donnes ici ce matin, de se réunir ensemble autour de ta parole, autour de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur Dieu, que cette vérité, Seigneur, pénètre dans nos cœurs, qu'on le prenne, Seigneur Dieu, au sérieux. Chaque fois qu'on se reçoit, Seigneur, c'est toi qu'on reçoit. Remplis nos cœurs, Seigneur, de cet amour, de cette chaleur qu'on a les uns envers les autres. Père éternel, on te demande de diriger ce matin. Dispose nos cœurs, Père éternel, à recevoir ce que tu as à nous montrer ce matin. On veut te demander, Seigneur, de nous disposer, d'enlever, Seigneur, dans nos têtes, dans nos cœurs, tout ce qui peut nous distraire, nous empêcher, Seigneur, de recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. On veut te louer, Seigneur, t'honorer encore une fois ce matin en regardant à ta parole. Merci. Amen. Donc, on est présentement dans une série, et puis c'est la dernière prédication de la série sur les valeurs qu'on fait depuis déjà un bon moment. Et puis, on est dans la quatrième section. Il y a eu trois sections. On est dans la quatrième, qui est l'importance de l'amour dans notre Église. Nous sommes unis les uns aux autres et avant tout des aimants. Des aimants dans le sens qu'on attire. OK? On aime puis on attire. C'est un beau jeu de mots. Et puis, dans cette section-là, l'importance de l'amour dans notre Église, on a regardé trois choses. On a regardé avec Benoît prendre soin, l'importance de prendre soin les uns les autres. On a regardé aussi l'accueil la semaine passée avec notre frère Jocelyn, qui nous a vraiment encouragés à se saluer, à prendre au sérieux l'accueil, accueillir les gens qui viennent. Puis on l'a vu encore avec ce que je viens de partager, l'importance de s'accueillir, de se souhaiter la paix aussi. Je pense que c'est quelque chose qui serait bon là, qu'on prenne l'habitude semaine après semaine de conserver cet aspect-là. Ça serait bien. Et puis cette semaine, on va regarder les groupes maison. Qu'est-ce que les groupes maison viennent faire dans cet aspect-là, l'importance de l'amour dans notre Église? Eh bien, être une Église qui se démarque par son intégration des membres et non-membres à travers ces groupes maison. Donc, dans cet aspect-là, ce matin, on va regarder trois choses. Pourquoi les groupes vie? Le but des groupes vie, puis le fonctionnement aussi de ceux-là. Si on se rend jusque-là, ça va être bon. Okay? Il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Donc, une Église qui se démarque par son intégration des membres et non-membres à travers les groupes maison. Pourquoi les groupes vie? J'étais allé un peu trop vite. Pourquoi les groupes vie? Bien, on vient ici dimanche après dimanche. Et puis, on est une grosse église. On est 300 personnes en général de moyenne, 300, 315. Et puis, ça va vite. On est beaucoup. Chacun fait ses petites choses. On rencontre les gens qu'on connaît. On serre la main. On se dit bonjour. Et puis après ça, tout le monde repart chez eux avec son petit train-train quotidien. Faire les choses qui, pour continuer sa semaine, les choses qu'il y avait au programme. Mais dans tout ça, c'est qui est au courant de nos soucis, de nos problèmes, de nos blessures, de nos souffrances, de nos tracas, dans tout ça? Tout le monde est beau, tout le monde paraît bien le dimanche matin. On s'habille bien, on se met un sourire d'en face, on va à l'église, puis on vient faire le plein pour continuer le reste de la semaine avec nos problèmes quotidiens, nos soucis, nos tracas. Mais qui est-ce qui vous dit que le voisin à côté de vous, il y a de la bouffe dans son frigidaire à la maison? Qui est-ce qui vous dit qu'il n'est pas en dépression ou en burn-out? S'il n'est pas sur le bord de la faillite, en poursuite judiciaire, ou qu'il a le cancer ou une autre maladie grave? Qu'est-ce qui vous dit si son couple ne bat pas de l'aile puis qu'il est sur le bord du divorce? Qu'est-ce qui nous dit si, à ses yeux, Dieu est un Dieu qui est loin, qui ne prend pas soin de lui, puis qui doute de la bonté de Dieu, de sa puissance, de son amour? Qu'est-ce qui nous dit ça? Qu'est-ce qui nous dit s'il n'est pas arrivé une tragédie dans sa vie, comme il est arrivé cette semaine, dans la vie de notre frère Yvon? Qu'est-ce qui nous dit s'il n'est pas triste, frustré contre Dieu aussi? Toutes ces choses sont possibles. Mais tout le monde repart comme si de rien n'était chez lui, avec son petit bonheur ou sa misère. Est-ce comme ça que Dieu désire que son Église, son épouse, vive? Chacun de son côté, sans que nous soyons prêts les uns des autres. On vit dans une société très individualiste où chacun fait sa petite affaire, vit son lot de problèmes, puis on ne veut pas le partager. Il faut avoir l'air fort. Il faut que ça aille bien. Il ne faut pas que les autres sachent que je suis déstabilisé, qu'il y a quelque chose. C'est une société où est-ce que la dépression est à son top, les burn-out, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce le modèle biblique? C'est pas ça que Dieu veut. Combien de personnes sont blessées par une église qui prétend aimer et prendre soin? Il y en a combien de ça? Quand ça fait 6 mois que tu assistes à une église puis que tu passes encore inaperçu, assis sur ton banc, puis qu'après ça, tu as le goût de sacrer ton camp le plus vite possible. Puis là, on dit, on aime, puis on prend soin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se dit dans la tête de cette personne-là? Hein? Quel beau sourire hypocrite vous portez ce matin, mes frères et sœurs. Ça me répugne, puis ça me fait mal. Vous prétendez aimer. Vous nous donnez des attentes. Ça fait 6 mois que je suis assis là. Puis vous n'avez jamais fait ce que vous dites faire. Ça fait mal, hein? On est coupable de ça ce matin, mes frères, mes sœurs, ici à l'église à Trois-Rivières. On est coupable de ça. J'en connais personnellement qui ont été assis ici pendant 6 mois. Il y en a plusieurs, malheureusement. J'ai eu le privilège de grandir dans l'église ici, donc je connais beaucoup de personnes. Si c'est ma famille, c'est mon église, je connais la plupart des gens qui sont ici, je ne peux pas connaître tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. On est une famille. Est-ce qu'on est une famille? Oui, on est une famille. Est-ce qu'on se soucie des membres de notre famille? Pas assez? J'ai 3 enfants. J'ai ma femme. Ils sont chers à mon cœur. Puis quotidiennement, le plus souvent possible, je prends soin d'eux. Je leur demande comment ils vont. Parce que je les aime. Ils font partie de ma famille. Mais nous aussi, on est une famille. Hein? Donc, je vous pose la question, pourquoi les groupes vie? Pour ça. C'est pour ça, les groupes vie. Les groupes maison en semaine. C'est pour ça. On est 300 personnes. Est-ce qu'on peut connaître tout le monde? On ne peut pas connaître tout le monde. On aimerait ça connaître tout le monde. Mais c'est impossible. C'est impossible. À moins que quelqu'un il vive de ça, dans le sens que tout ce qu'il fait, c'est rencontrer les membres de l'Église pour apprendre à les connaître à temps plein. Il ne fait pas autre chose, là. C'est impossible. On ne peut pas connaître tout le monde. Les groupes vie, c'est des groupes de 8 à 15 personnes qui se rencontrent chaque semaine pour stimuler ensemble leur foi et leur croissance. Et développent une proximité qui les amène à se serrer les coudes là où chacun se situe spirituellement dans sa vie. Très important. Peu importe où ce que vous soyez dans votre foi, que vous soyez près de Dieu, que vous soyez loin de Dieu, que vous vous sentez à la hauteur ou non, vous êtes les bienvenus dans les groupes vie. Parce qu'on prend les gens là où ils sont. Puis le but, c'est de regarder en avant. De se coller les coudes ensemble, puis d'avancer. Dans les groupes vie, nous vivons une proximité qui nous permet de prendre soin les uns les autres et de grandir dans notre foi. C'est pour ça que les groupes vie ont été mis en place. Pour qu'on puisse ensemble se coller, s'appuyer, pour que personne ici passe inaperçu le dimanche matin, puis qu'ils repartent chez eux, puis que la prochaine fois qu'ils vont avoir des contacts avec les frères, ses frères, ses sœurs, c'est le dimanche suivant. Où est-ce qu'il va faire le plein d'énergie, le plein de réconfort, dépendamment de ce qu'il vit, puis après ça, qu'ils repartent chez eux, puis toute la semaine sert à le vider, puis après ça, il vient s'en remplir. C'est pas ça le modèle de la vie chrétienne. Donc, on veut se coller les bras, se coller les coudes, avancer ensemble, grandir dans notre foi. On n'a pas inventé la façon de le faire. C'est un principe, les groupes maison, qui était présent aussi au début à l'Église primitive avec les apôtres. C'est vraiment un modèle qui était très, très, très utilisé. Les gens se rencontraient dans le temple. Où est-ce qu'ils priaient, il y avait la prédication, l'enseignement, puis les gens aussi se rencontraient dans les maisons. Où est-ce qu'ils partageaient le pain ensemble, où est-ce qu'ils priaient ensemble, où est-ce qu'il y avait la communion fraternelle, où est-ce qu'ils développaient une proximité ensemble. Dans un commentaire que John MacArthur a écrit, il dit ceci. Dans l'Église primitive, les maisons des croyants servaient à presque tous les genres d'activités chrétiennes. Manger ensemble, on voit ça dans Actes 2:46, enseigner et annoncer la bonne nouvelle, Actes 5:42, préévangéliser et évangéliser dans Actes 10:23 et 27:48 aussi, adorer et s'enrichir, s'entraider ensemble, Actes 20 verset 7 et pour témoigner et discuter aussi ensemble. Donc il y a réellement une communion, il y a réellement quelque chose qui se passe là. Dans les maisons. J'ai dit tantôt des groupes de 6 à 12 personnes. Dans l'idéal, il y a des groupes qui sont plus gros, il y a des groupes qui sont plus petits, mais l'idéal, c'est entre 8 et 12 personnes où est-ce que les gens se rencontrent semaine après semaine avec un objectif. Ils ont quelque chose en tête. Ils se rencontrent, mais il n'y a pas juste l'idée de se rencontrer. Il y a l'idée aussi de se stimuler, de grandir dans la foi. L'idée de découvrir nos dons spirituels, de les mettre en action pour l'édification du corps de Christ. C'est le but. Donc, c'est exactement pour la raison pour laquelle nous avons, dans l'Église, ici, décidé de faire de nos groupes maisons un élément principal de notre Église. Nous y croyons et nous avons maintenant plusieurs témoignages qui viennent appuyer notre choix. Ça fait 7 ans maintenant que les groupes vie existent ici à Trois-Rivières. Et puis, ça fait 7 ans que c'est une bénédiction. C'est vraiment... Ça a fait la différence dans la vie de plusieurs personnes ici. Et puis, je ne peux pas dire que les groupes vie sont parfaits. On est tous des hommes. Et puis, on est tous pécheurs. On a une idée, on a un idéal. Est-ce qu'on l'atteint toujours? Ça dépend de chaque année, ça dépend de chaque groupe, ça dépend de ce qui arrive, de ce qui se vit dans les groupes. Mais une chose est sûre, par exemple, c'est qu'on apprend à vivre ensemble, à s'aider, à grandir, on se colle les coudes, puis on avance. J'aimerais inviter Colin et puis son épouse à venir nous partager quelque chose par rapport à ces groupes, la différence que ça le fait dans leur vie.
Ça nous a permis de pouvoir lire notre Bible, de la comprendre et de la pouvoir partager avec notre groupe. Cela faisait grandir notre foi et changer notre cœur. Nous avons appris que nous pouvions faire confiance à Jésus. Il est toujours là pour nous aider. La deuxième année, c'était vivre avec Dieu. Nous avons été plus à l'écoute des gens, essayer de les comprendre et de comprendre pourquoi qu'ils agissaient comme ça. Nous avons appris aussi à essayer de moins juger le monde. La troisième année, c'était travailler avec Dieu. Et cette année-là, c'était vraiment notre année. Nous avons parlé de Jésus dans notre milieu de travail, ce que je pensais jamais faire un jour. Je me disais, comment m'en faire pour aborder ces gens-là? Je connais pas beaucoup ma Bible. Je suis pas capable de m'exprimer sur ces gens-là, d'être sûr de moi. Mais le Seigneur a tellement travaillé avec moi et avec Anne, c'est qu'à tous les jours, il nous ouvre les portes. Il nous donne la chance de pouvoir travailler avec ces gens-là et de pouvoir partager. Et merci encore, Seigneur, pour ça. Nous avons suivi le cours de Dipola avec Michel et Kathleen, et je les remercie beaucoup. Très gratifiant pour nous. Nous avons aussi suivi le cours de membres. Nous sommes fait baptiser cette année. C'est grâce aussi au groupe vie que tout ça s'est fait dans la même année. Nous voulions prendre action et on l'a fait avec pour plaire à Dieu.
Durant le mois, nos réunions sont sur 4 différents thèmes. On a le partage, on revient sur le message du dimanche. On peut dire à Dieu ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie durant la semaine. On apprend à comprendre les Écritures. Toutes ces choses nous ont permis de s'exprimer dans le groupe et aussi d'écouter les autres. On parle aussi sur l'évangélisation. Les différentes façons pour évangéliser. Chaque disciple avait sa façon bien à lui de le faire. Nous croyons qu'il faut développer et trouver la nôtre. En faisant confiance au Saint-Esprit, il nous guide dans nos interventions. Il y a prière et intercession. Apporter nos requêtes de prière et prier sur celles-ci. Voir ce que Dieu fait dans la vie de chacun grâce à la prière. Savoir que durant la semaine, il y a des gens qui prient pour ces requêtes, on se sent moins seul. Il y a aussi une étude... une rencontre sur les études. Nous avons eu la formation pour nous outiller à évangéliser. Nous avons aussi une étude sur le couple. En étant en petit groupe, on s'aperçoit que nous vivons tous des difficultés, des obstacles et des joies. Même si nous ne posons pas toujours les questions, nous avons souvent des réponses à nos interrogations. Nous croyons que peu importe le nombre d'années que nous sommes au Seigneur, chaque personne est importante dans le groupe. Nous devons nous aider les uns les autres. Comme dans le verset dans la Bible, dans 2 Corinthiens 12, 11, Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Je veux juste terminer. Vous savez que nous aimons beaucoup les chansons. Puis il y a beaucoup de choses dans les chansons qu'on apprend. Il y a une chanson qui nous touche toutes les deux, et ça dit vraiment notre percussion de trois années. « Si tu pries, si tu crois, et si tu agis, cela changera toute ta vie. » Alors, nous croyons qu'en tant que chrétiens, nous devrions prendre tous action et partager dans un groupe de vie. Je vous remercie. Amen.
Merci beaucoup. Donc, les groupes vie sont venus, c'est venu jouer un rôle dans leur croissance. Je pense que le Seigneur, à travers ce groupe, leur a appris des vérités qui sont profondes, qu'on ne fait pas juste savoir dans nos têtes, mais qui nous poussent à l'action aussi, et à le vivre, donc à le connaître pour de vrai. La vraie connaissance, c'est pas juste dans notre tête, mais aussi, c'est des choses qu'on sait, qu'on applique, qu'on met en application. C'est ça qui fait vraiment la différence. Et puis, des témoignages comme ça, je pense qu'il y en aurait plusieurs ce matin. On en a eu quelques-uns au courant des années passées. Sporadiquement, les gens venaient, partageaient. Un que j'ai en tête, notre frère Benjamin aussi. Seigneur s'est servi de l'entremise des groupes vie pour faire beaucoup de changements dans sa vie, pour bénir abondamment aussi, suite à ça, à travers les groupes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas nécessairement le groupe. Parce que celui qui fait le travail, c'est qui? C'est Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans la vie des gens. Les groupes vie, c'est un moyen, c'est un véhicule. C'est un stimulateur, c'est un boost. C'est nous amener ensemble à s'examiner à la lumière des Écritures, puis ensemble de s'encourager pour mettre en application ce que les Écritures nous disent. Le but des groupes vie. Parce que un groupe vie, les gens ne se rencontrent pas juste pour se rencontrer. OK? Les groupes vie se rencontrent autour de Christ. On est des croyants qui se rencontrent. C'est pas un groupe où est-ce que Jésus est utilisé comme moyen de thérapie pour qu'on puisse se faire du bien, où est-ce qu'on puisse se divertir dans la semaine. Jésus n'est pas un prétexte pour rencontrer d'autres mondes. Donc Jésus n'est pas un moyen qu'on utilise dans les groupes vie. Jésus est la fin en soi. C'est lui qu'on recherche. Comprenez bien ce que je veux dire? Jésus n'est pas juste un moyen. Il est la raison pour laquelle on se rencontre. La personne de Christ est au centre, non pour créer une ambiance sympathique ou pour améliorer les vertus thérapeutiques du groupe, pas même pour constituer le facteur d'unité dans la petite communauté chrétienne. Il n'est pas présent pour être utilisé, mais pour être servi et adoré. Donc, on n'est pas des groupes qui se rencontrent juste pour se rencontrer. Les groupes vie qui se réunissent pour adorer Christ et lui obéir, pour se placer sous l'autorité de la Bible, des Saintes Écritures, pour être des havres d'espoir aussi, stimuler la communion, amener les gens à avoir une foi vivante en Christ, s'entraider pour préparer chacun à témoigner dans le monde. C'est pour ça que les groupes vie se rencontrent, pour ces raisons-là. Ça va prendre chacun des éléments-là, on va les retrouver au courant des 4 soirées disciples qui nous en ont partagé un peu. On va y revenir un petit peu plus tard. Les croyants se rencontrent pour adorer Christ et lui obéir. Notre premier devoir n'est pas de nous mettre au service les autres, mais de nous mettre ensemble au service de Dieu. L'Église n'est pas un ensemble de personnes associées parce qu'elles partagent le même intérêt dans la religion, mais la fraternité de ceux que Dieu a appelés à la communion avec lui-même et les uns avec les autres par Christ. La communion a une dimension horizontale uniquement parce qu'elle s'appuie avant tout sur une dimension verticale. On a une communion ensemble, verticale, homme à homme, seulement parce qu'il en existe une horizontale. Ah! Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Verticale, horizontale. Elle existe horizontalement seulement parce qu'elle est là. Verticale. OK? C'est très, très, très important. C'est vraiment au centre des rencontres que l'on fait. Ça fait toute la différence. La caractéristique essentielle d'une communion chrétienne devait être la place centrale occupée par Jésus-Christ. Il est la caractéristique essentielle. Dans Éphésiens 4, on voit « Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » C'est en lui qu'on va grandir. Donc, Jésus est là pour être adoré et pour qu'on lui obéisse. Très important. On est là aussi pour se placer sous l'autorité de la Bible. Un premier objectif des groupes est d'exploiter tous les moyens en leur disposition pour écouter ce que la Bible dit réellement, pour découvrir comment l'appliquer à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, pour l'encourager, et puis que les Écritures deviennent concrètes dans sa vie. Comment appliquer ce que les Écritures disent? C'est une des choses qu'on fait ensemble dans les groupes. On va prendre un texte, on regarde un texte, on va l'étudier, on va se questionner, on va prendre le temps d'y réfléchir, on va y revenir la semaine suivante s'il faut. Qu'est-ce que ça dit? Comment ça s'applique dans ma vie à moi aujourd'hui? Le groupe vivra sa vie communautaire sous l'autorité de la parole de Dieu. Nous devons chercher à enrichir les relations personnelles au sein du groupe en exhortant chacun à obéir à ce qu'il aura appris sur l'intention de Dieu pour son peuple en tant que communauté de foi. On s'encourage dans l'action. Les données bibliques sont primordiales pour le groupe, mais elles ne suffisent pas. La doctrine a besoin d'être traduite dans la vie concrète. On étudie la parole de Dieu, mais maintenant, qu'est-ce qui peut sortir de ça? Juste la lire pour la lire, c'est pas suffisant. Il faut l'appliquer. Il faut s'encourager. C'est ça que les groupes vie font. On est là pour ça, ou les groupes maison. Être un havre d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, est-ce que les gens ont besoin d'espoir? Si on questionne une personne puis sur la rue puis on dit est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour le monde? Souvent, les gens sont découragés. Oh, ça va de mal en pire, ça n'a pas de sens. Soyons des havres d'espoir, parce que est-ce que la parole de Dieu nous en donne un espoir? Oh que oui. Puis tout un, hein? Un jour, on va être devant notre roi, devant notre sauveur, pour l'éternité. C'est pas un soulagement, ça? Tout un. Y a-t-il d'espoir pour l'humanité? Les gens disent généralement non. Mais à travers l'histoire, les petits groupes ont été utilisés à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Et puis, en Angleterre, il y avait, il y a plusieurs années, la société était très semblable à la nôtre. Je vais vous le lire, OK? Ça va être mieux comme ça. Le climat social dans lequel les petits groupes méthodistes sont nés en Angleterre se caractérisait par la solitude, l'isolement, le désespoir, l'aliénation, les changements dans la vie familiale et les progrès technologiques rapides. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vit, hein? Les classes constituaient un refuge, les groupes constituaient un refuge où les gens découvraient le Dieu de l'espérance, y acquéraient une assurance pour devenir des apôtres de l'espérance auprès de leurs contemporains blasés, ceux qui étaient complètement découragés. Le climat social actuel présente de nombreux points communs avec ce temps-là en Angleterre. C'est pourquoi les petits groupes revêtent la même importance comme cellules chrétiennes disciplinées capables de semer la foi, l'espérance et l'amour. Les petits groupes aujourd'hui peuvent être de véritables villes de refuge pour les gens aujourd'hui. Les personnes troublées seront entendues, acceptées et comprises. Là, elles trouveront la sécurité dans une communauté qui les entoure. Elles recevront une parole d'espérance délivrée par ceux qui sont dans les Écritures avec un esprit ouvert et disponible en présence de Christ, du Christ vivant et puissant. Être un havre d'espoir. Il y a combien de personnes à l'extérieur d'ici qui sont désespérées? Il y en a combien? Puis, il y en a aussi à l'intérieur, ici, dans l'Église. Les gens qui se sentent seuls, qui vivent des épreuves, puis qui les vivent tout seuls. C'est triste. C'est pas ce qu'on désire, mais c'est la réalité. Soyons des havres d'espoir. Les petits groupes où est-ce qu'on se colle les coudes. On prend chacun là où ils sont, puis on regarde en avant, puis on s'encourage. Centré sur les Écritures, centré sur Christ, se laisser encourager, se laisser aimer. C'est aussi un endroit pour stimuler la communion. Les êtres humains sont faits pour vivre en communion et ensemble. Mais la communion qui nous intéresse ici est très particulière. C'est la fraternité dont le Nouveau Testament parle beaucoup. Le mot grec, il dit, c'est koinonia. Je ne sais pas si je le prononce comme faux. Il évoque l'idée de partage, de partenariat, de mise en commun des intérêts. Les chrétiens sont en communion les uns les autres par Christ. Ils partagent le même amour de Dieu à travers Christ et on part au même Saint-Esprit. Comme les chrétiens sont unis par la foi en Christ, leur Seigneur et Sauveur, ils sont aussi en vertu du Saint-Esprit qui habite en eux individuellement et collectivement, rendus capables de s'impliquer dans la vie les uns des autres d'une façon intime et bienveillante, de se communiquer l'amour que l'Esprit suscite dans leur vie. Le lien qui nous unit, on a le même Dieu, le même Seigneur et Sauveur, le même Esprit. On peut s'entraider, même rentrer, si on peut dire, dans la bulle de la personne, rentrer dans la vie personnelle, dans ce qu'il vit au quotidien, l'aider dans sa famille, les problèmes qu'il vit relationnels, l'aider aux problèmes au travail. Oui, c'est des choses qui sont personnelles qu'on veut garder pour nous autres. Regarde, mettons ça de côté. Okay? C'est culturel, c'est la société qui nous amène à avoir cette mentalité-là, la société dans laquelle on a grandi. Mais ce n'est pas ce que Dieu désire. Le lien qui nous unit est fort. Puis il nous unit. On est un seul corps. On est rendu capable de s'impliquer dans la vie des uns des autres. Ma foi a un impact dans vos vies. Mes péchés ont un impact dans vos vies. On est unis, ensemble. C'est un lien puissant. On est capable de s'impliquer dans la vie des uns les autres d'une façon intime et surtout bienveillante. On n'est pas là pour prendre la Bible puis taper sur la tête de la personne. Non. Pas là pour écraser. On est là pour encourager. Jésus était doux et humble avec ceux qui étaient dans la faiblesse, avec ceux qui étaient dans la difficulté. Il était très dur et ferme avec ceux qui étaient dans l'orgueil. Il était très direct avec les pharisiens. Prenons le temps. Encourageons-nous. Arrêtons de juger. Prenons-nous là où ce que nous sommes ensemble, puis encourageons-nous. Quand Jésus a déclaré, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans Jean 13, 35. Quand Jésus disait ça, il pensait à l'amour altruiste, sincère et profond, dont les chrétiens s'aimeraient mutuellement. On donne et on reçoit. Mais il faut être connecté à la source de cet amour-là, qui est Christ. C'est aussi, quand on parle de croissance spirituelle qu'on vise dans les groupes, c'est aussi pour amener les gens à se connecter à la source. Être capable d'être rempli de cet amour-là pour pouvoir le partager aux autres puis le donner. Amener les gens à avoir une foi vivante en Christ. Les petits groupes jouent un rôle essentiel pour faire prendre conscience aux gens de leurs besoins de Christ et pour les aider à prendre calmement une décision réfléchie qui transformera leur vie. Les petites cellules qui se réunissent dans les maisons et regroupent les gens offrent un cadre plus chaleureux et plus intime pour annoncer l'Évangile. Cette note était absente des grandes campagnes d'évangélisation dans le passé. Les petits groupes viennent jouer un rôle très personnel. On partage là où est-ce qu'on est et puis on grandit à partir de là. On s'encourage. Les groupes sensibles et attentifs, soucieux d'aider les gens à placer leur foi en Christ, peuvent traiter les auditeurs comme des personnes, respecter leur intégrité, se mettre à leur niveau de compréhension, cheminer aussi longtemps qu'il le faudra, puis les intégrer au sein du groupe pour qu'elles apportent à la communauté et qu'elles reçoivent aussi en retour. Les petits groupes sont là pour s'entraider. On a besoin les uns des autres, à tous les niveaux. Dans Hébreux 10, l'auteur exhortait ses lecteurs à ne pas déserter les assemblées, car chacun d'eux a une responsabilité vis-à-vis des autres. Lorsque deux ou trois ou davantage sont assemblés, Christ est présent et accomplit son œuvre en chacun par l'intermédiaire des autres. Chacun est appelé à encourager ses frères et sœurs dans la foi. Chaque croyant est un pasteur pour prendre soin de son frère. On a un rôle à jouer dans la vie de nos frères et nos sœurs. C'est important qu'on se rassemble, qu'on se colle ensemble, qu'on s'exhorte ensemble, qu'on s'entraide. On a un impact les uns les autres. On est reliés. C'est aussi un endroit pour préparer chacun à témoigner dans le monde. Comme notre frère et notre sœur nous ont partagé, pour eux, c'était impensable. C'était pas quelque chose qu'ils envisageaient. Comment est-ce qu'un jour, je vais être capable de partager avec eux autres? Comment aborder? Comment amener le sujet? De quoi je vais parler? Mais petit à petit, Seigneur a ouvert des portes. Ils ont dit, Seigneur, OK, donne-moi les opportunités. Je te fais confiance. Je m'abandonne entre tes mains. Le petit groupe les a encouragés. Ils ont été outillés. Les frères, les sœurs les ont accompagnés dans la prière pour les aider. Ça fait une différence. Négliger le social, c'est vouloir être plus spirituel que Jésus l'était. La bonne nouvelle, n'est pas la parole a été faite esprit, mais la parole a été faite chair. Cela signifie que l'Évangile doit s'exprimer en termes humains, en termes d'action sociale, en termes de chair et de sang. Les mots seuls ne suffisent pas. Mettons-nous dans l'action. Parlons. Propageons la bonne nouvelle. Les petits groupes sont là pour encourager ça aussi. Le devoir de croissance spirituelle et le souci social du groupe, loin de s'opposer mutuellement, ont en fait besoin l'un de l'autre. Il y a deux aspects à la vie chrétienne. Il y a la vie personnelle, puis il y a l'aspect social aussi, qui n'est vraiment pas à négliger. Il faut développer les deux. Dans les groupes, la structure qu'on a choisie le permet. Donc, il y a une soirée sur l'évangélisation, où les gens sont outillés. Ou est-ce qu'on est encouragé à être une lumière dans notre milieu de travail, dans notre milieu quotidien? On participe aussi à des activités d'évangélisation, à des efforts d'évangélisation qui est organisé par l'Église. Les groupes se mettent ensemble aussi, puis à Noël, à Pâques, lors des moments spéciaux, bon, ils vont faire des actions. On a nos frères qui ont fait quelque chose envers le Havre cette année. C'était un projet très, très, très encourageant. Ils sont allés porter des paniers à Noël et puis à Pâques aussi. Ils l'ont refait. Et puis, ça a vraiment fait une différence dans la vie de ces personnes-là qui vivent des moments difficiles. Donc, on est dans l'action. C'est important de ne pas négliger cet aspect-là de la vie chrétienne. Donc, adorer Christ et lui obéir, se placer sous l'autorité de la Bible, être des havres d'espoir, stimuler la communion, amener les gens à avoir une foi vivante en Christ, s'entraider, préparer chacun à témoigner dans le monde. On a un impact les uns sur les autres. Très important qu'on se mette ensemble, sans juger, qu'on se prenne là où ce qu'on est dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, qu'on se dise, moi, je veux que ça change. J'ai besoin de personnes pour m'entourer, pour m'aider, me stimuler, m'outiller. J'en ai besoin pour avoir du changement dans ma vie, grandir. C'est pour ça que les groupes vie sont là. Les cellules maison sont là. Comment ça fonctionne? Très simple. 4 soirées. La première, c'est une soirée étude. Où est-ce que, ensemble, on se tourne vers les Écritures? On chante ensemble, les sujets de louange, culte personnel, on partage ensemble, capsule de prière. Puis après ça, l'élément essentiel de la soirée, c'est une étude. Ou est-ce que on prend un sujet, on prend un thème au début de l'année, puis on le développe tout au long de l'année. On a un objectif, on veut se rendre quelque part. On prend pas un passage juste pour prendre un passage. Ensemble, au début de l'année, on s'assit, puis on dit où est-ce qu'on veut aller ensemble, de quoi qu'on a de besoin. Et puis après ça, on se dirige tout au long de l'année vers cet objectif-là. Donc, on va regarder la parole ensemble, on va l'étudier, on va l'examiner, et puis la soirée qui suit habituellement, c'est la soirée partage. Qu'est-ce que la vérité qu'on a appris la semaine précédente en étudiant la parole, comment est-ce qu'elle s'applique à moi dans ma vie? Où est-ce que je me situe par rapport à ça? Souvent, c'est pas évident d'avoir la question, la réponse vite, dans la soirée même. Fait qu'on peut prendre la semaine pour y réfléchir. La semaine suivante, on va revenir, puis on va partager les uns les autres. On va prendre le temps de partager qu'est-ce que ça le fait dans ma vie. Puis où est-ce que je m'en situe? Où est-ce que je me situe par rapport à ça? C'est quoi mes défis pour avancer? Puis après ça, on va prendre du temps dans la prière, dans l'intercession, pour prier par rapport à ce qu'on a vu les semaines précédentes. On a étudié la parole, on a partagé ensemble sur ça. Puis maintenant, on va aller devant Dieu, on va aller en prière. On va demander au Seigneur de nous aider à avancer par rapport à ça dans nos vies. Donc, c'est les 3 éléments principaux de l'étude, partage, adoration, intercession. On étudie la vérité biblique, on étudie la parole de Dieu, on prend le temps d'y réfléchir, on partage là-dessus la semaine suivante, et puis après ça, on se présente ensemble devant Dieu. La prière, les chants font partie de chacune des soirées, comme vous voyez là. Ça fait partie de chacun des éléments. Il y a des retours sur l'enseignement du dimanche. Ça appartient à chaque groupe. Chaque groupe a sa couleur. Chaque groupe a ses objectifs. Chaque groupe est particulier. On a mis un cadre, OK? Mais tout le monde peut aller où est-ce qu'il veut dans ce cadre-là. On a 4 outils qui sont les 4 soirées. Études, partage, adoration, intercession, puis évangélisation. On a 4 outils pour s'entraider, grandir dans notre foi, découvrir le Seigneur avec la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, découvrir ce que Dieu a pour nous. Fait que Chaque groupe a ses couleurs, selon le coordonnateur, selon les membres du groupe, ils se sont donné des objectifs, ils ont regardé aux besoins, et puis ils ont pris une direction ensemble, et puis c'est la direction qu'ils ont entamée pour l'année. Donc, sûrement un groupe qui est prêt à répondre à votre situation présentement, si vous ne faites pas partie d'un groupe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites signe. Restez pas assis sur votre chaise à attendre qu'on vous approche. Faites signe, OK? Appelez-moi, venez me voir après, ça va me faire plaisir. La dernière rencontre, c'est la rencontre évangélisation. C'est comme une parenthèse par rapport aux trois autres qui vont très bien ensemble. L'évangélisation, on se donne un projet d'évangélisation, on va lire un livre ensemble au niveau de l'évangélisation. Le but, c'est de s'outiller, de se donner des aides, de s'encourager à faire de l'évangélisation. Prière et chant, capsule de prière, encore une fois, très important. Sujet de louange, culte personnel, un temps de partage de bénédiction, puis l'évangélisation. Soit qu'on va préparer le projet ensemble, soit qu'on va partager sur le livre qu'on a lu, soit qu'on va regarder une méthode qui est utilisée. C'est unique à chaque groupe. Chaque groupe est différent, des objectifs différents, des moyens différents. Et puis, c'est de trouver celui qui fit avec ce que vous êtes présentement. L'importance de l'amour dans notre Église. À travers les groupes vie, pourquoi qu'on en a fait un élément central de l'Église? C'est pour qu'on puisse vivre ensemble. On est 300. On ne peut pas tous se connaître. Mais on ne veut pas que vous soyez assis ici, là, sur votre chaise, et puis que vous ne sentiez pas que nous ne sommes pas votre famille. On veut que ça soit concret dans vos vies. On est une famille. Puis les groupes vie vont vous amener à vivre cette vie familiale-là d'une façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus rapprochée. C'est un complément. Les réunions ici sont très importantes aussi. Très importante. On se réunit ensemble pour louer, adorer le Seigneur, pour regarder aux Écritures, prêcher l'Évangile. Très important. Les groupes vie le sont aussi. Ils jouent un rôle très important dans chacune de nos vies. Pour l'amour de Dieu, nous désirons que personne ici ne passe inaperçu et nous désirons que tous soient traités aux petits oignons. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie, Père, pour les choses que tu fais ici à ton Église, à Trois-Rivières. Père éternel, notre désir est de te louer, de t'honorer, de te glorifier, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Père. Merci, Père éternel, de nous avoir dirigés, de nous avoir montré ta volonté par rapport à ces groupes maison, Seigneur. Où est-ce que les gens se rassemblent pour grandir, pour te découvrir, pour s'aider les uns les autres, pour vivre cette foi, Seigneur, que tu as placée pour nous, cette foi collective, Seigneur. Tu désires que l'on vive ensemble, comme une famille, unie. Seigneur, pour nous donner un avant-goût de ce qu'on va vivre pour l'éternité avec toi, Seigneur, unis parfaitement en un seul corps, pour l'éternité devant toi, Seigneur. Merci du privilège que tu nous donnes de pouvoir se rassembler ici chaque semaine, chaque dimanche, chaque mercredi, Seigneur, avec nos frères, nos sœurs. C'est vraiment un privilège, un avant-goût, Seigneur, que tu nous donnes de ce que ça va être au ciel. Merci, Seigneur Dieu. On te demande, Père éternel, de continuer à travailler nos cœurs, travailler nos vies, Seigneur, pour qu'on apprenne à te découvrir encore davantage dans chaque jour que tu nous donnes, Seigneur Dieu. On veut que cette gloire, Père, te revienne. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.